L'exposé qui suit sera consacré à Rabbi Joseph de Hamadan, un kabbaliste dont la place occupée dans l'histoire de la Kabbale est difficile à délimiter, et cela pour plusieurs raisons. D'abord, on ne sait absolument rien de lui, ou à peu près rien. Certaines sources semblent nous indiquer qu'il serait originaire d'Iran, de la ville de Shoshana Bira, sous la capitale, identifiée comme étant Hamadan par Gershom Scholem, qui est un des premiers qui s'est intéressé à ce kabbaliste. Mais ce n'est là que des suppositions, car rien ne nous dit qu'il était véritablement originaire d'Iran. Il a pu se faire qu'il a été dénommé ainsi, Rabbi Yosef Abba Meshoshana Bira, comme l'indiquent les manuscrits, uniquement parce qu'il est venu, Abba Meshoshan Abira, de la ville de Suse. Autrement dit, parce qu'il y a fait un voyage. Toujours est-il qu'il est certain qu'il s'agissait d'un kabbaliste espagnol et castillan. Une série d'indices nous permettent de le dire avec une certitude quasiment absolue. Le fait en particulier qu'à un certain moment, dans un commentaire sur la vision d'Ézéchiel, il dénomme les animaux de la vision d'Ézéchiel par des noms espagnols, transcrits en hébreu bien évidemment. La place de Rabbi Joseph de Hamadan dans l'histoire de la Kabbale est à la fois très grande, très large, puisqu'il a irrigué, inspiré de nombreux kabbalistes après lui. Son influence a été considérable, et que d'autre part, son œuvre n'était pas connue comme étant due à ce kabbaliste, comme ayant pour source cet auteur. C'était un auteur considéré comme anonyme, des écrits qui étaient si peu identifiés comme, d'après leur provenance, d'après leur source, une source unique, qu'un kabbaliste du XVIIe siècle, de la fin du XVIe, début du XVIIe siècle, Rabbi Jacob ibn Frachi, s'est attribué son ouvrage sur les commandements. Mais nous reviendrons sur ce texte. En fait, tout ce que nous pouvons dire, c'est qu'il s'agissait d'un kabbaliste qui vivait en Castille, dont l'inspiration, l'écriture, la doctrine est très proche de celle du Zohar, ou de celle de Moïse de Léon, ou encore de celle de Joseph d'Icatilia, kabbaliste connu, mieux connu par ailleurs. Selon ses écrits, en introduction de plusieurs de ses ouvrages, il indique simplement, il se plaint de, ou il se réfère à sa pauvreté, et il indique que les écrits qu'il présente ne sont pas l'œuvre de son intelligence, mais lui ont été inspirés par une aide, par une voix céleste. Donc son œuvre est d'emblée mise sur le compte d'une source divine, et non d'une garantie traditionnelle suivant un système ou une chaîne de transmission. C'est une autre marque de ce kabbaliste. Bien entendu, l'ensemble de ses écrits sont facilement identifiables parce qu'un style, des expressions particulières reviennent systématiquement et qu'on ne retrouve guère ailleurs. Prenons quelques exemples. L'expression Shalshelet Ademut ou Shalshelet Akabala Ve'ademut, c'est-à-dire la chaîne de la ressemblance, la chaîne de la tradition et de la ressemblance. Ou alors l'expression Shalshelet Akdusha Ve'ateora, la chaîne sainte et pure, pour désigner l'ensemble des séphirotes. Quelques expressions en araméen. Bref, il est relativement aisé de discerner l'ensemble des écrits, un certain nombre d'écrits, comme étant l'œuvre d'une source unique, d'un kabbaliste unique, connu sous le nom de Joseph de Hamadan. Alors, tournons-nous vers son œuvre, puisque l'on ne sait pas grand-chose, presque rien de l'homme. Son œuvre se caractérise par deux types d'écrits, deux séries d'écrits. Des écrits en hébreu et des écrits en araméen. Parmi les écrits en hébreu, citons ce qui est probablement une œuvre première, pour ne pas dire une œuvre de jeunesse, bien qu'on ne sache rien de la date de sa rédaction, sinon qu'elle peut être située vers la fin du XIIIe siècle, début du XIVe siècle. D'abord, il y a son commentaire sur la Genèse, et peut-être sur l'ensemble du Pentateuque, dont il ne nous reste qu'un fragment assez court concernant les premiers chapitres du livre biblique de la Genèse. C'est un écrit en araméen qui commente de façon serrée les versets de la Genèse, qui le raccole également des versets du livre de l'Ecclésiaste, essentiellement, donc qui agit un petit peu comme le Midrash ancien, qui avait toujours comme méthode de rapprocher un verset du Pentateuch d'un verset des hagiographes, des écrits, des Ktuvim, et il revient souvent dans son commentaire, dans le fragment qui nous est parvenu, sur un même verset, qu'il commente selon plusieurs voies. Il y a Derech HaKabbalah, la voie de la Kabbale, il y a Derech HaSechel, la voie de l'intelligence, il y a Derech HaPshat, la voie du sens simple, mais malgré cette subdivision en différents niveaux de sens, ce n'est pas clair du tout quand il s'agit vraiment d'un commentaire kabbalistique ou d'un commentaire littéral, puisque littéral, pour lui, veut dire déjà kabbalistique, bien que il s'agisse en fait de couches ésotériques différentes et superposées les unes aux autres. Il distingue donc une couche profonde du plus grand secret et puis des couches ésotériques plus superficielles. Outre son commentaire sur la Genèse dont il ne nous reste qu'un fragment d'ailleurs que j'ai eu l'occasion d'imprimer et d'éditer avec une traduction et des notes, il y a de cela quelques temps, je crois en 1997 ou 98, on compte son commentaire sur les commandements. Il s'agit d'une œuvre tout à fait volumineuse qui commande vraiment la totalité des commentaires, des commandements, et qui se subdivise en deux parties. Une partie est consacrée aux commandements positifs, c'est-à-dire aux prescriptions, aux obligations, et cette partie a été publiée sous forme d'une édition critique dactylographiée par un chercheur du nom de Meyer aux États-Unis. Il n'a pas fait l'objet d'édition imprimée et diffusée dans un large public. La deuxième partie de son commentaire sur les commandements, de son Sefer Tameh Mitzvot, qui n'a d'ailleurs guère d'autre titre que celui-ci, est consacré bien sûr aux commandements négatifs, aux interdictions. Ce commentaire n'a jamais été publié, ni sous forme de thèse, ni à plus forte raison sous forme d'édition imprimée. Il y a, bien entendu, ensuite, parmi les écrits hébreux, toujours, un ouvrage qui s'intitule le Sefer Toldot Adam, le livre des engendrements de l'homme. Il s'agit d'un ouvrage volumineux. Il semble qu'un bon tiers seulement nous soit parvenu, qui a été imprimé, en tout cas pour ce tiers subsistant, en 1932 à Casablanca, par un kabbaliste du nom de Joseph Toledano, qui a publié un florilège de textes kabbalistiques de diverses origines, de diverses auteurs, et dates et provenances. Et dans ce florilège, il y a cet écrit qui n'est pas identifié d'ailleurs, nommément, qu'il a été un peu plus tard par Ephraim Gottlieb autour des années 70, qui était un chercheur de Jérusalem, décédé pendant la guerre de 1973. Et ce Sefer Toldot Adam comprend des commentaires sur la vision d'Ézéchiel, des commentaires sur les commandements, des commentaires sur le Shur Koma, c'est-à-dire le corps divin, des commentaires sur les astres. C'est une œuvre variée qui aborde la plupart des sujets qui sont abordés dans les autres livres de Joseph de Hamanan, mais de façon plus ramassée, peut-être plus développée, en tout cas de façon tout à fait systématique. Il y a, toujours parmi les écrits hébreux, un commentaire sur les 10 séphirotes. C'est un ouvrage court qui suit l'ordre des séphirotes, qui n'a pas été publié pour le moment. Moshe Hidel en annonce une édition depuis de nombreuses années qui n'a toujours pas vu le jour. C'est un ouvrage intéressant, important, puisqu'il s'agit d'un exercice auquel les kabbalistes se livraient couramment. Nous disposons, Sholem en a fait une liste, mais qui n'était pas exhaustive, d'un grand nombre de commentaires sur les 10 séphirotes, à commencer sans doute par le commentaire de Rabbi Azriel de Géron sur les 10 séphirotes, qui s'appelle le Shahar HaShoel, le portique du questionneur. Et ces commentaires sur les 10 séphirotes, ou plutôt ces exposés, ces petits traités sur les 10 séphirotes, sont variés, nombreux, assez court en général, nous donne une représentation simplifiée mais systématique de la représentation par les kabbalistes des séphirot, des 10 séphirot, étudiées une à une. Il y a maintenant à parler des écrits en araméen de Joseph de Hamadan. Essentiellement, l'un est connu. Il se peut qu'il y en ait d'autres, mais finalement, je crois qu'on peut dire que véritablement, on ne peut compter qu'un seul écrit en hébreu de Joseph de Hamadan. Et il s'agit de son ouvrage intitulé Sefer Tachak. Tachak pour Tanar, qui sont les initiales donc du mot Tanar, pour Ta. Shin, c'est le Shir HaShirim, le cantique des cantiques. Et le Kouf pour Kohelet, pour l'Ecclésiaste. Il semblerait donc que ce soit, en fonction de ces trois ouvrages, Cantique des Cantiques, l'Ecclésiaste et la Torah ou le Tanakh, c'est difficile à savoir, parce que c'est ces trois mots qui donnent son titre à cet ouvrage. Alors, c'est un ouvrage extrêmement important. Il est écrit en partie en araméen, en partie seulement, mais en bonne partie, tout de même. Et finalement, bien qu'on l'ait présenté parfois comme un commentaire sur l'Ecclésiaste et le Cantique des Cantiques, qu'il y a des passages qu'on peut considérer comme un commentaire sur le livre d'Ézéchiel, enfin sur la vision d'Ézéchiel, en réalité, il s'agit d'un développement du Shiur Koma, c'est-à-dire d'une reprise kabbalistique de la figure du Shiur Koma, de la mesure, de la forme anthropomorphe divine, telle qu'on la connaît depuis la fin de l'Antiquité. Et cet ouvrage déploie cette forme dans tous ses détails, en décrit toutes les parties et toutes les significations. Moshidel avait identifié un texte qu'il avait attribué avec raison à Joseph de Hamadan, un texte qu'il avait considéré comme un chibour, un écrit séparé, et qu'il avait situé comme étant son texte sur la sexualité, où Joseph de Hamadan développait de façon très audacieuse des images relatives aux organes sexuels dans le monde divin. En fait, j'ai montré dans un article publié récemment dans la revue Kabbalah, publié par Kerub Press, qu'il s'agissait d'une partie intégrale du Sefer Tachak, qui avait été exclue de la plupart des manuscrits, censurés probablement, pour différentes raisons, qui ne tiennent pas d'ailleurs uniquement à la question des visions, des images sexuelles. Et cet ouvrage, enfin plutôt cet écrit, qui est en fait un chapitre, un développement qui se trouve au cœur même du Sefer Tachak, développe non seulement l'organe sexuel masculin du monde divin, décrit en détail, mais également met en relation le corps divin avec les lois de la cacheroute, les règles qui stipulent que telle ou telle partie des animaux peuvent être consommées et pas d'autres. Et certains ont pensé qu'il y avait une véritable allusion ici à une sorte d'eucharistie kabbalistique, puisqu'il s'agit aussi quelque part, quand on mange de l'animal cachère, de se nourrir d'éléments du corps divin. D'ailleurs, il y a dans ce texte une allusion aux étincelles que le juste permet de délivrer quand il mange des animaux abattus de façon licite, des parties cachères licites des animaux, une idée qui va être considérablement développée par la suite dans la Kabbale laurianique, par Yitzhak Loria lui-même, au XVIe, XVIIe siècle. D'ailleurs, ce n'est pas le seul point sur lequel Joseph de Hamadan a influencé la Kabbale laurianique. Peut-être que nous y reviendrons plus tard. Moshidel avait déjà fait allusion à l'influence de Joseph de Hamadan sur Rabbi Yitzhak Luria, en particulier sur tout ce qu'il considérait tout ce qu'il appelait les configurations, les partsoufim, et sur d'autres points encore. Mais revenons aux commentaires, aux écrits exégétiques, que ce soit sur les textes bibliques ou les commandements, de Joseph de Hamadan, avant d'aborder le Sefer Tachak, proprement dit, qui pose des questions particulières et qui peut être considéré, avec raison, je crois, comme la version de Joseph de Hamadan, du Shiur Koma, que l'on trouve, dont on trouve une autre version dans la partie Hidra Rabba et Hidra Zuta, dans ces parties-là, du Zohar. J'indiquerai évidemment d'abord que Joseph de Hamadan a été considéré comme ayant été inspiré par le Zohar. On l'appelle parfois un continuateur ou un imitateur du style du Zohar, parce qu'il écrit en araméen, mais aussi à cause de ses idées, de ses développements, de la forme de ses commentaires. Je tendrais plutôt à y voir un précurseur du Zohar, parce qu'en fait, rien ne nous dit que il a écrit ses œuvres après avoir lu le Zohar. Il se pourrait qu'il s'agisse simplement de sa propre version d'un même enseignement, couché d'une certaine façon par écrit dans la littérature zoharique et couché d'une autre façon dans les écrits de Joseph de Hamadan. Et il peut même avoir écrit ses œuvres avant le Zohar. Ce que, personnellement, je tendrais à penser, bien que je n'en ai pas de preuves formelles. Joseph de Hamadan est à la fois un kabbaliste qui fait appel à toutes les ressources de la Kabbale, donc un auteur mystique, profondément mystique, un visionnaire, et en même temps quelqu'un qui également, et de façon très surprenante pour le lecteur, qui soudain se trouve devant des développements de type quasiment philosophique, en tout cas qui fait appel un souci philosophique très évident. Il y a vraiment les deux pôles qui surgissent dans sa pensée et dans ses écrits. Il cherche à être compris, à être clair, et pour cela, il n'hésite pas à développer, à justifier, à expliquer tel ou tel mouvement entre Séphirot, tel mouvement de l'influx divin, dans des termes qui peuvent intéresser la raison et une intelligence de type philosophique. Mais l'essentiel de ses écrits de type exégétique est lié à sa doctrine théosophique. Doctrine théosophique qu'il avance de façon aussi bien parfois assez abstraite, relativement abstraite, que de façon imagée et très mythique. Très mythique en tout cas, qui fait appel à des représentations longues et détaillées. Il est d'ailleurs considéré, Rabbi Joseph de Hamadan, par les chercheurs contemporains, comme le plus mythographique des kabbalistes d'Espagne, comme étant le kabbaliste qui a rédigé et qui est allé le plus loin dans la version mythique ou mythologique de l'explication du système des séphirotes, puisqu'il fait appel avec beaucoup d'audace et en allant très très loin en poussant la description le plus loin possible à des images concrètes, à des formes figurées. Parlons tout d'abord de son style. C'est un auteur assez plaisant à lire, agréable, qui surprend souvent son lecteur, qui ne le lasse jamais, bien que, comme l'ensemble des kabbalistes et même des auteurs médiévaux, il a tendance à répéter ce qu'il dit. Mais chez lui, la répétition est moins la simple reprise de ce qui a été dit précédemment qu'une nouvelle vision, qu'une nouvelle version d'un même motif. Pour bien percevoir Joseph de Hamadan, on peut le comparer à Moïse de Léon, que ce soit dans ses écrits hébreux ou à travers le Zohar. Joseph de Hamadan a beaucoup moins tendance à emprunter le langage de l'oraison ou de la prédication médiévale, de la dracha médiévale. Je veux dire par là qu'il lui arrive très très rarement, sinon jamais, de faire appel à son lecteur pour qu'il corrige sa conduite, de faire appel à ses bons sentiments. Il s'adresse beaucoup moins à l'émotion. Il ne tente pas de susciter une forme de passion ou d'émotion chez son lecteur, mais il s'adresse surtout à sa raison et à son imagination. Il n'a pas le style parfois imprécateur de Moïse de Léon, qu'on trouve aussi dans le Zohar assez souvent. Il semble être beaucoup plus indépendant que Moïse de Léon lui-même, qu'il était déjà, pour une très très large part, de la société dans laquelle il vivait. Il n'avait visiblement aucun compte à rendre à ses contemporains. Il cherchait à les instruire à travers ses écrits, mais sûrement pas à les mener quelque part, à les guider ou à les transformer. Il cherchait à les convaincre par la puissance de son raisonnement et des images qu'il délivrait beaucoup plus que par la force de ses appels ou des artifices de sa rhétorique. Joseph de Hamadan est aussi un auteur très attachant. Il se cache en permanence dans ses textes, il ne se révèle pratiquement jamais, bien que quelques reprises il évoque sa situation économique difficile, ou des visions, ou plutôt une aide divine qu'il reçoit pour écrire ses livres. Mais contrairement à Moïse de Léon, par exemple, ou à Joseph Gicatilia parfois, il n'adresse pas ses livres, il ne les dédie pas à un donateur, à un maître de l'époque. Visiblement, il ne cherche absolument pas l'approbation de qui que ce soit. C'est quelqu'un qui est indépendant et qui tient à le rester tout au long de ses écrits, quitte à franchir parfois ce qui, pour certains, serait les limites de la bienséance, en particulier dans ses descriptions des organes sexuels, masculins et féminins, du monde divin. Joseph de Hamadan est aussi quelqu'un qui accompagne son lecteur tout au long de sa lecture. Je veux dire par là qu'il cherche moins à l'éblouir qu'à l'accompagner, qu'à le prendre par la main pour lui montrer, pour lui apprendre quelque chose, pour lui faire comprendre quelque chose. On sent la personne, l'homme, à travers ses écrits. On le sent bien sûr chez l'autre kabbaliste, mais chez lui, cela a un caractère encore plus fort, plus prenant, plus quelque part, c'est encore plus émouvant parce que l'on sent qu'il a été oublié par l'histoire. On ne le connaît que depuis que quelques chercheurs, il y a finalement quelques dizaines d'années seulement, se sont souciés de son existence. Il est cité une ou deux fois dans les manuscrits kabbalistiques, mais ce n'était certainement pas quelqu'un de connu ou une vedette à son époque, quelqu'un de modeste, de retiré, un penseur profond, chaleureux et, je crois aussi, profondément détaché des convenances.